parler de Pourim. Et nous allons parler de Pourim par un angle de vision qui est celui de la Chassidoute. C'est-à-dire nous allons parler du sens caché plus profond de Pourim, celui qui nous révèle des valeurs, des niveaux de Pourim que nous ne connaissons peut-être pas et qui est important de savoir. Quand je parle de chassidoute, je parle de source de choses, c'est-à-dire que la chassidoute ne va pas seulement au résultat, mais va s'adresser plutôt à la valeur intrinsèque de l'événement ou de la chose de laquelle on est en train de parler. Ça veut dire que si on parle de Pourim, on va laisser de côté pour l'instant le côté de la fête telle qu'on la connaît aujourd'hui. On va précisément s'occuper du sens de l'âme de la fête. Donc là aujourd'hui j'ai pris un texte qui va dans la lignée de Rabbi Nachman de Breslev, alav shalom, et qui va nous dévoiler Pourim de cette manière-là. Ben, c'est la vraie.
Non.
C'est déguisé, hein,
bah, moi, je ne fais pas du 40, en fait. Rebecca, elle est là, Rebecca.
C'est Rebecca?
Ouais.
J'ai compris. Les cheveux, machin, ça va. Le sweat, ça va, j'ai compris. Ok, effectivement, la jupe comme ça.
Ouais, exactement.
Top. Bon, Rebecca, calme-toi alors. Hein. Je vais te parler. Alors, regardez comment le Rav va commencer. Ce qui est en parenthèse, c'est moi qui le rajoute pour expliquer les choses. Mais en réalité, le texte est pris de l'Ikouté Halakhot de Rabbi Nathan, c'est-à-dire l'élève de Rabbi Nachman, dans Orach Chaim, Ilchot Pourim, Halakha Gimel. Alors, on va un petit peu s'occuper de ce degré-là. Première des choses, Achizat Haman, le Rav vient s'occuper de la source, de la prise, de là où Haman a pris ses forces. D'où est-ce qu'il a puisé la puissance de faire ce qu'il a fait contre le peuple juif. Vous voyez qu'on s'occupe déjà directement des valeurs intérieures de la fête. Alors, Achizat Haman, Haya Mipegam Etzadat. Et là, directement, on nous balance très très loin. On nous dit qu'en réalité, Haman a pu faire ce qu'il a fait parce qu'il était en réalité quelqu'un d'autre. Avec un nouveau vêtement. C'est-à-dire, c'est une même énergie qu'on a déjà connue dans le monde, mais pas sous cette forme-là. Autrement dit, Haman n'est qu'un nouveau déguisement, une nouvelle apparition d'une force négative qui a déjà fait des dégâts dans l'histoire humaine. De qui est-ce que Rabbi Nachman ou Rabbi Nathan, son élève, veulent parler, d'après vous?
Amalek.
Non. Non, c'est sûr que sa source est Amalek, mais là il va plus loin encore. Non, plus loin. Non, plus en avant. Avant. Il y a Femeod, le Nachash, le serpent. Ça veut dire que, en réalité, Shalom. Ça va, Abigail? Elle parle même comme elle. Bien. Le même maquillage, je vois que... Sauf... J'ai remarqué, elle a fait le haut et le bas. Hein. Tov. Alors, vous voyez comment ça devient intéressant. Ça veut dire qu'en réalité, le premier Haman de l'histoire, ou le premier Amalek de l'histoire, c'est le serpent. Il fallait y penser. Ça veut dire qu'en réalité, vous voyez qu'il s'agit ici de la même énergie qui se déguise à chaque génération et qui apparaît en fait à chaque génération sous la forme de quelqu'un d'autre. Et ça devient très intéressant pour nous parce que nous ne sommes pas bloqués, nous sommes très souples dans la compréhension de ce mal. Et quelle est la source de ce mal? Où puise-t-il sa force? Ken.
Je comprends pas pourquoi
Amalek
c'est le serpent.
On va. Non. On va comprendre. Amalek, il est aussi à l'intérieur de nous. Ça veut dire que le serpent est aussi à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, c'est une force en nous, okay, qui en fait la force intellectuelle de l'homme, déconnectée de sa force de Emouna. Ben, Amalek, c'est la même chose. Il faut bien comprendre que si une force arrive à nous de l'extérieur, c'est qu'elle est déjà à l'intérieur. Okay. Eh bien, nous avons une parcelle qui est comme ça.
Mais pas une force néfaste.
Le Nahash? Mais c'est une force néfaste. C'est à cause de lui que la mort est arrivée dans le monde. À cause de lui, à cause de la séduction qu'il a causée à Chava, la mort est arrivée dans le monde. Avant, la mort n'existait pas. Adam Arishon n'a pas été créé pour mourir. C'est le jour où tu consommeras, et grâce ou à cause du serpent, il a consommé. C'est-à-dire à cause de cette force amalekite qui est en toi, qui dans la source est bonne. Mais Amalek aussi dans sa source est bon. Puisqu'il y a marqué la destruction de Amalek seulement sous le ciel. Ça veut dire au-dessus du ciel, ce sont des expressions des sages. Au-dessus, c'est-à-dire dans le sens profond. Même Amalek sert à faire quelque chose de bien, même quand il se déguise en quelque chose de mal dans ce monde. Donc en réalité, c'est pas que Amalek c'est le serpent. Il dit que Achizat Amalek, où est-ce qu'il a puisé sa force pour faire ce qu'il a fait? Dans l'histoire du serpent. C'est pas forcément que lui c'est le serpent, mais il est apparu dans ce monde grâce à cette force qu'il a étudiée en fait, dans ce que le serpent a causé à l'humanité. Donc, Aman est allé étudier la Torah. Il est allé étudier ce que le serpent a fait. Et il a pris en fait des forces de là-bas. Donc c'est un sage dans le mal. Il a utilisé le mal du serpent pour véhiculer, pour avancer ses idéologies néfastes. Et il a utilisé la même chose. Par exemple, comment est-ce que le serpent a commencé pour séduire Chava? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il ne la force pas. Si la force... Ma? D'accord, mais ça tu as raison, c'est sa pensée profonde. Mais de facto, comment il s'y est pris?
Par la parole.
Ok, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pas seulement par la parole.
Il a modifié ce qu'elle a dit.
Non, c'est elle qui a modifié.
Elle a modifié et lui, il a su trouver ce qu'elle a
dit. Ok, mais qu'est-ce qu'il a fait? Clairement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté de quoi?
Il a tenté de prendre la connaissance.
Ok, ça veut dire qu'il a invité au restaurant. Mais oui, ben oui. Il a invité à manger, il a invité au restaurant, il a invité à consommer. Et ici, la consommation, c'est pas une consommation de la chose que tu es en train de manger. Ça veut dire qu'il a invité à manger des idées qui sont contraires aux idées de l'éternité. Que quand je dis que j'invite quelqu'un à manger, c'est pas que je vais lui donner un bout de poulet à manger. C'est que par la consommation du poulet, il va en réalité consommer quelque chose de beaucoup plus profond. Il va consommer mon idéal, l'idée que je veux introduire chez lui. Vous comprenez? C'est beaucoup plus grave. C'est pour ça que consommer, ne restez pas au premier niveau de la consommation, c'est pas seulement aller manger. Aujourd'hui, vous consommez toute la journée. Quand vous regardez la télévision, vous consommez des images. Quand vous regardez Internet, vous mangez des images. Quand vous écoutez la radio, vous mangez des images. Quand vous écoutez un cours, vous êtes en train de manger. Vous comprenez? Ça veut dire que le serpent a, en fait, donné à manger. Donc j'ai dit ça, il a invité au restaurant pour que ça vous fasse rire, mais en réalité c'est ça le sens profond. Et d'ailleurs les sages nous disent que quand tu veux dominer quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? L'inviter à manger. Imra'ev sona'acha, si ton ennemi a faim, ha'achile ou lechem, donne-lui à manger du pain. Im shtsamehu, s'il a soif, hashke ou maim, donne-lui à boire. Ki gechalim atachote al rosho, parce que c'est comme si tu lui mettais des braises sur la tête. C'est-à-dire que tu le domines. La domination de l'ennemi, c'est quand on l'invite. Quand est-ce qu'on signe les plus grands contrats dans ce monde? Dans le restaurant. Et les plus grandes affaires du monde se signent dans les restaurants. Parce que les gens se sentent à l'aise, ils sont en train de manger, ils sont calmes. C'est pas dans le bureau, tu es coincé, tu es angoissé. Okay? Alors on t'invite au restaurant, tu es détendu. Mais c'est exactement la même chose. Regardez maintenant, Haman. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Un michté. Il a fait un banquet, il a invité tout le monde à manger au restaurant, c'est la même chose. Toute l'histoire de Mordechai et d'Esther, ça commence la même chose. Ça veut dire qu'ici, tous les juifs, tous les Yehoudim sont invités au banquet de Achashverosh. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, « Shenehenu miseudato shel oto racha. » Ils ont profité du mets, du plat, « shel oto racha, du rachat en question. De qui parle-t-il? Non. Du serpent. C'est pour ça qu'ils disent pas de Achashverosh. Ils te disent, ça peut être Achashverosh dans cette génération, mais dans une autre génération, dans une autre histoire, c'est quelqu'un d'autre. Alors on l'appelle Otoracha. C'est à toi de mettre les X et les Y là où tu veux. Il faut que tu comprennes que Otoracha, il est à chaque génération. Il se déguise en quelqu'un d'autre. Et si tu ne comprends pas, tu vas tomber en réalité dans le même piège. Shalom. Tu nous as manqué Shabbat. On voulait que tu viennes. Moi je voulais que tu aurais allé. Tov. La prochaine fois, Be'ezrat Hashem. J'ai demandé après toi. Tov, on a même parlé de toi. Donc regardez bien comment le Rav nous dit Achizat Haman Haya Mipgam Etzadat. Traduction: Haman s'est tenu, s'est raccroché Mipgam Etzadat. Dans leur détecte, ceux qui n'ont pas Mipgam Etzadat, c'est-à-dire par la faute de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire Etz en hébreu? Non. Etz, je vous ai dit déjà, c'est le masculin de Etza. Etz ve Etza. Qu'est-ce que c'est Etza? Un conseil. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en réalité, Etz hadat, qu'est-ce que ça veut dire? Le conseil de la conscience. C'est ça, Etzadat. C'est pas un arbre. On mange pas des arbres. C'est pas ça que la Torah vient nous enseigner. Elle vient nous dire qu'en réalité, Chava et Adam ont consommé un mauvais conseil. Vous avez compris? Une mauvaise information. Une information qui est dangereuse. C'est ça qu'ils ont mangé. Etzara. Donc, ils ont été. Aman, il a pris la même force. Mipgam Etzadat. Alors, entre parenthèses, je vous ai écrit, comme ça vous comprenez mieux, Kel Omar, ce que je veux dire par là, Mekor Achizat Kocho Shel Amalek. Où est-ce que Amalek prend sa source? Où est-ce que Amalek s'est renforcé? Qui lui a donné cette puissance d'action? Ganouz, eh bien ça c'est caché, Bechet O Shel Adam Arishon, dans la faute du premier homme. Donc l'histoire de Purim, c'est la faute du premier homme, Mispar Shtaim. Deuxième fois la faute du premier homme. On recommence la faute du premier homme. Vous comprenez? Ça veut dire qu'une fois déjà, qu'est-ce que ça a donné? La mort. Puisque à partir du moment où on mange ce mauvais conseil, la mort est arrivée dans le monde. La femme voit du sang depuis ce jour-là. Vous savez que les femmes ne devaient pas avoir des règles. Ça n'existe pas dans la nature. Les règles de la femme, le sang de la femme, qui veut dire en réalité la mort chaque mois, parce que qu'est-ce que c'est que le sang de la femme? C'est un bébé qui meurt. chaque mois. Un bébé qui n'est pas venu à la vie. Donc il y a tout qui tombe. Et en réalité, c'est un meurtre, quelque part. C'est un manque de vie, plus exactement. Et c'est pour ça que la femme doit s'asseoir en deuil 7 jours. C'est les chiffres. Anekim. C'est pour ça que la femme compte 7 jours de deuil, comme pour un mort. Mais ça, où est-ce que c'est né? Où est-ce que ça a commencé dans l'histoire? À cette faute-là. Ça veut dire qu'il ne devait pas y avoir tout ça. Si on n'avait pas consommé de ce mauvais conseil, il n'y aurait que la vie.
Mais comment on aurait eu des enfants?
Eh bien justement, quand tu as des enfants, c'est exactement l'inverse, tu n'as plus tes règles. Une femme enceinte, elle n'a plus ses règles. Pourquoi une femme enceinte n'a plus ses règles? Parce qu'elle est dans un mouvement de vie. Et quand elle n'est pas dans ce mouvement de vie, chaque mois, elle voit la mort. Okay? Ça, c'est aussi, elle n'aurait pas dû souffrir non plus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'on aurait été dans un mouvement de vie continuel, constant, sans jamais toucher au degré de mort. Donc tout ce degré-là, ça s'appelle Mishra Dechivia. Dans le langage des sages, Mishra Dechivia, c'est-à-dire la peau du serpent. Ça veut dire on est tombé dans la peau du serpent. Comment on dit la peau en hébreu? Or, avec un haïn. Vous savez que Adam Arishon avait des vêtements de lumière, or. Ça veut dire qu'il a en fait perdu le Aleph qui est tombé au haïn. Aleph, c'est 1. Aïn, c'est 70. 70 moins 1, c'est 69. Ça veut dire qu'on a 69 degrés à rattraper dans la vie pour revenir à l'unité d'Akadosh Baruch Hu. On est tombé de 70 degrés. Maintenant, le mot « or » dans lequel nous sommes maintenant après cette faute-là, puisqu'on a perdu la lumière, on est arrivé à « or ». Toute l'histoire de l'humanité, c'est de revenir de « or » à « or », à la lumière. Mais pour l'instant, nous sommes dans « or ». « Or » en hébreu, vous avez dit, ça veut dire « la peau ». Mais si je le lis autrement, comment je peux lire? Non, en hébreu. « Hiver », aveugle. Ça veut dire que je suis aveugle aujourd'hui. Nous sommes tous aveugles de la lumière initiale, première. On n'arrive plus à voir cette lumière. Donc on a comme une peau qui recouvre la vérité, une écorce. Et c'est à cause de cette écorce qu'on ne peut plus voir la vérité. Vous comprenez? Donc tout le travail ici est un travail très intelligent dans le mal que Haman est en train de faire. Haman, c'est quelqu'un de vicieux, de très fort. C'était un grand sorcier. Il savait tous ses secrets. Et il voulait donc recouvrir, maintenir le sommeil de la nation d'Israël. Parce que quand on dort, en réalité, on est un petit peu mort. C'est-à-dire? Et ça, c'est le secret de tout ce Amalek-là. Et c'est pour ça que les sages nous disent, dans l'Agmara de Choulin, à la page 139, Haman min ha-Torah minayin. Où est-ce qu'on a trouvé Haman dans la Torah? Est-ce que vous avez déjà vu Haman dans la Torah? Oui ou non? Non, Haman. Est-ce que Haman est marqué dans la Torah? Où? Non, ça c'est pas la Torah, c'est déjà le Nach. Dans le Tanakh, mais moi je demande dans la Torah. Bereshit Shmot Vaikra Bamidbar Dvarim.
Mais peut-être mais avec un autre nom.
Non, avec le même nom.
Ah non,
de l'arbre ou chez Yafé, mais autre. Emma, voilà la réponse. Troisième ligne. Hamin ha'etz. Hamin ha'etz. Qu'est-ce que ça veut dire Hamin ha'etz? Qui a dit à qui Hamin ha'etz? D'abord, traduction simple. Qu'est-ce que ça veut dire Hamin ha'etz? Est-ce que de l'arbre, je continue, que je t'ai interdit de consommer, tu as consommé? Qui a dit à qui? Hachem a dit à Adam. Hamin ha'etz, asher amarti lecha, le bilti achol mimeno achalta? Question, est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai interdit? Alors la question c'est Hamin. Hamin, est-ce que... Comment on l'écrit Hamin? Comme Haman. C'est-à-dire quelqu'un qui lit la Torah, dans la Torah il n'y a pas les points. Il n'y a pas les voyelles. Donc au lieu de Haman, tu peux lire Hamin. Et au lieu de Hamin, tu peux lire Haman. Si tu donnes à un enfant à lire la Torah dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il va lire? Haman. Donc les Chachamim nous sont donné quelque chose de secret. Nous ont dit où est-ce que Haman est déjà marqué dans la Torah, avec les mêmes lettres que Haman. Seulement ça se lit à inversement, mais toi il faut que tu comprennes. Hamina Etz. Ça veut dire qu'ils ont relié directement Haman à l'arbre. Et puisque l'arbre n'est pas seulement un arbre, mais une idée, donc Haman Etza. Ça veut dire que Haman, le premier Haman de l'histoire, il est déjà dans le serpent qui nous a donné un mauvais conseil pour manger de l'arbre interdit. Wow. Merci. Ken? Sheneemar, Amina Etz, Ve'alken, fin de la troisième ligne, Ve'alken, Ratsa l'Idgaber Bechodesh Adar Shemet Bo Moshe. Et c'est pour ça qu'il voulait prendre ses forces. Quand? Le mois de Hadar. Pourquoi? Parce qu'il savait aussi, Haman, que qui était mort le mois de Hadar?
Moshe.
Donc il s'est dit, Moshe, qu'est-ce qu'il représente dans le peuple d'Israël? La conscience divine. C'est-à-dire le lien avec Akadosh Baruch Hu, qui c'est? C'est Moshe. Moshe, quand on dit Moshe, c'est pas un monsieur. C'est en réalité le lien que nous avons avec la vie, avec Akadosh Baruch Hu. Le mot Moshe, c'est l'aile de Hachem. À l'envers, c'est la même chose. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu dans ce monde, il s'est habillé dans qui? Dans Moshe. Donc moralité, si Moshe est mort, qui est mort? Akadosh Baruch Hu. Voilà le travail. Comme le philosophe Ken, qui a dit ça? Non, Dieu est mort. Qui a dit Dieu est mort? Nietzsche. Ça veut dire qu'en réalité, le premier philosophe de l'histoire, Ken, qui nous dit que notre Dieu est mort, c'est en réalité Haman, et c'était déjà en réalité le serpent. Écoute-moi, n'écoute pas Akadosh Baruch Hu. C'est vrai? Sheneemar, Hamina Etz ve'alken, Ratsa l'Idgaber bechodesh Adar, Shemet bo Moshe. Ki mitat Moshe, Zebchinat istalkut Adat. Et donc la mort de Moshe, elle représente quelque chose ici. Qu'est-ce qu'elle représente, la mort de Moshe? La disparition de ce qu'on appelle la connexion, le da'at. D'accord? Donc s'il n'y a plus de da'at, il n'y a plus de connaissances, de vraies connaissances, alors en réalité on est encore une fois dans un monde où on ne sait plus différencier le bien et le mal. Et sa da'at, tov, vera. On ne sait plus où est le bien, où est le mal. C'est ça le problème de toute l'histoire de Pourim. Donc l'histoire de Pourim est liée directement à qui? À Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, il est obligé de revenir. Parce qu'on parle de lui. Alors qui ça va être Moshe dans Megillat Esther? Mordechai. Mordechai, c'est Moshe, c'est le même. Et Esther, qui c'est? Aaron. Ça veut dire Mordechai et Esther, c'est Moshe et Aaron. D'ailleurs, ça commence les mêmes Aleph, les deux. Okay? Ça veut dire qu'à chaque fois que nous avons une délivrance, ça commence par un même qui est le Goel, le Mashiach, même et Aleph, toujours. Le même, c'est le côté masculin, et le côté féminin, c'est le Aleph. Donc, même Aleph, Moshe, Aaron, Mordechai, Esther, Mashiach, Eliyahu, à la fin des temps. Quand il y a un processus de Geoula, c'est toujours ça qui apparaît. Qu'est-ce que c'est ces deux lettres? C'est M. M veut dire maman. Ça veut dire maman se dévoile. Dès que maman se dévoile, c'est un monde supérieur qui est en train de se dévoiler dans ce monde. Ken? Quand on dit maman, c'est une parabole. Ken? Pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, la maman supérieure, est en train de descendre dans notre monde. On appelle ça le discernement, la bina. Okay? Donc vous voyez ici, ce sont des choses très profondes que Rabbi Nathan est en train de nous donner. L'histoire de Pourim commence bien avant Pourim. Elle commence au moment de la faute dans le Gan Eden. Kimitat Moshe zeprinat istalkuta dat, prinat sheina. Et donc, si Moshe meurt, Il n'y a plus de connexion. Rappelez-vous que quand Moshe a disparu pendant 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé sur Terre? Le veau d'or, directement, on fait le veau. Parce que Moshe est monté. Dès que Moshe monte, il y a des problèmes en bas. Il ne faut jamais laisser Moshe partir. Et là, Moshe est mort. Alors Aman, il se dit, c'est le moment de faire le dégât. Puisqu'il n'y a pas de Moshe dans le monde. Seulement, il a oublié, ce Aman, que Moshe était aussi né. Le jour où il est mort. Ça veut dire Moshe a vécu 120 ans complets. Il a fait un cycle complet. Le même jour de sa naissance, c'était le jour de sa mort. C'est comme ça d'ailleurs qu'on voit qu'un grand tzadik est un tzadik. Il meurt le jour de sa naissance. C'est-à-dire qu'il a fait le tour complet. Ok? Donc, si Moshe est né le Zayin Adar, le 7 Adar, okay, le même jour que sa mort, ça veut dire le jour où le sort est tombé, quel jour le sort est tombé? Pourim. Nakhon? Qu'est-ce que c'est pour Moshe Rabbeinu ce jour-là?
Sa Brit
Mila. C'est 8 jours plus tard. La Brit Mila de Moshe, c'est le jour de Pourim. Ken, mais Nachon, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui ce que nous fêtons, parce qu'après il y a tout le développement de la Gemara. Comment ça marche pour arriver au 15 et au 14 comme on le fête aujourd'hui? Ken, en tout cas, dans les faits, la Brit Mila de Moshe, c'est le jour de Pourim. Ça veut dire qu'on a fait la Brit Mila à Moshe avant qu'il y ait Pourim. On ne savait pas ce que c'était Pourim. Quand sa maman lui a fait Brit Mila, quand son papa lui a fait Brit Mila, c'était le jour de Pourim qu'on ne fêtait pas encore. Mais ce jour-là, il a déjà, depuis la création du monde, une force. Qu'on va essayer, si c'est ce jour-là qu'on lui a fait la Brit Mila, on va essayer ce jour-là de briser, de couper le lien. Parce que la Brit, qu'est-ce que c'est Brit? C'est le lien. C'est le lien entre le haut et le bas, entre Dieu et les hommes, entre l'homme et la femme. Ça veut dire tous les liens, et là je suis en train de vous dévoiler le secret de Pourim, tous les liens dans votre vie, ils peuvent être ou coupés le jour de Pourim, ou bien rassemblés le jour de Pourim. Attention. Ça veut dire ou le jour de Pourim on vous déconnecte complètement, Chas v'Shalom, parce que vous, vous êtes fragile, vous vous déconnectez de la force divine, ou bien ce même jour-là, vous pouvez vous réunifier avec vous-même, avec votre identité, avec votre prise de conscience, avec ce que vous allez faire dans votre vie. Ça veut dire que le jour de Pourim est un jour de rétrospection intérieure. Qu'est-ce que je dois faire le jour de Pourim? Je dois réfléchir au sens que je donne à ma vie. Est-ce que je veux être quelqu'un qui refait le lien, qui tisse le lien à nouveau, ou bien Chas v'Shalom qui déconnecte? Autrement dit, j'ai deux possibilités le jour de Pourim. Ou je suis avec Amalek, ou je suis avec Israël. Ou je suis avec Haman, ou je suis avec Mordechai. Vous comprenez comment ça marche? Ou je suis avec le Nahash, où je suis avec le Mashiach. C'est la même force. Nahash, c'est en valeur numérique 358, comme Mashiach. Mashiach et Nahash, c'est la même chose. Ça veut dire, Mashiach, c'est un serpent, mais arrangé. Mashiach égale Nahash. La même valeur numérique, exactement. Donc, où tu es dans ta vie, Mashiach, où tu es un serpent. Mashiach, c'est la droiture. Le serpent, c'est l'entourloupe. Mashiach, c'est la simcha, c'est les mêmes lettres. Sa mère. Le nachash, c'est chas v'shalom, le doute et la peur et l'angoisse et la dépression, la maladie. Et ça, c'est notre choix le jour de Pourim. Qu'est-ce que veut dire le mot pour en hébreu simple? Un sort. Qu'est-ce que ça veut dire un sort? Tirage au sort. C'est ça ou ça? Rappelez-vous qu'à Kippourim, on a aussi un sort. Nakhon? Et on a un bouc, deux boucs qui sont les mêmes. Un va partir l'Hachem, v'echad l'Azazel. C'est ça Yom Kippourim. C'est comme Pourim. Et ces deux boucs qui sont jumeaux. C'est les mêmes. On ne sait pas qui va aller vers qui. Mais il y a la même chose ici. On ne sait pas ce que tu vas choisir dans ta vie. À qui tu vas donner la force? Au Haman qui est en toi? Au Amalek qui est en toi? C'est à toi de choisir ta route le jour de Purim, le jour où on répare Pgam et Sadat. C'est-à-dire, le jour de Purim, on te donne la possibilité de remanger. C'est pour ça que nous avons la mitzvah de faire la Seuda. Mais comment tu vas manger le jour de Purim? Avec quel kavana tu vas manger ce jour-là? Alors, je vous donne encore un tip, encore une clé. Le jour de Purim, quand vous faites votre michté, quand vous allez manger, pensez à réparer la faute de la première consommation, du premier restaurant. Quand vous étiez encore Chava. Quand on était encore Adam et Chava, quand on a mangé avec le serpent.
Est-ce que c'est
la même chose
quand on mange
avec le serpent? Ken. Après Yom Kippourim, c'est un autre degré, c'est pour te redescendre sur terre.
Et celui-là?
Celui-ci, c'est un degré où le jour même de la faute, tu corriges la faute. Tu corriges la consommation dans ta vie. Tu vas devenir un nouveau consommateur, un consommateur de vie, et non plus un consommateur de mort. Et donc le mot Purim veut dire textuellement Peru Urvu. Mazé Peru Urvu. Multipliez-vous. Ça veut dire donner la vie. Piria Verivia. Autrement dit, je transforme la mort en futur, en vie, en demain, en génération suivante. Vous êtes avec moi? Ok. Après la Géoula, les sages nous disent que toutes les fêtes disparaissent, sauf Purim. Justement parce que c'est une fête qui ne fait pas partie du passé. D'ailleurs, même Hanouka. Elle fait partie du futur. C'est une force du futur qu'on amène dans notre histoire. Je mange maintenant la fin des temps. C'est-à-dire le jour de Purim, si vous deviez lui donner un chiffre, quel chiffre il est?
8.
Nachon. Il est le chiffre 8. Maintenant vous comprenez pourquoi il est 7 jours après la naissance de Moshe. Et pourquoi il est, si je veux, en dizaines, c'est combien? En dizaines. C'est-à-dire 8 c'est en unité. En dizaines c'est combien? Quel chiffre c'est?
80.
Non. 50. Puisque le chiffre 7, c'est 7 fois 7, 49. C'est encore la nature. Donc c'est le chiffre 50. D'accord? Ça veut dire Purim, c'est le chiffre 50. Vous comprenez où je répète? La nature, c'est 7. Vous m'avez dit que Purim, c'était 8. D'accord? Donc c'est 1 au-dessus de 7. Mais 7, le maximum du 7, c'est combien? C'est 7 fois 7. 7 multiplié par 7. Toute la nature, c'est 7 multiplié par elle-même. Donc c'est 49. Donc 49 c'est un chiffre de la nature, oui ou non?
Oui.
Oui. D'ailleurs 49 c'est combien en lettres hébraïques? Même tête, qui est la racine du mot tum'a, la tum'a, l'impureté. Atum en hébreu, bouché, fermé. Pourquoi? Parce que c'est teva, kaful teva, la nature multipliée par la nature. En araméen la lettre titet se tombe en chine, sheva, kaful sheva. 7 fois 7. Donc c'est toujours la nature, 49.
C'est le niveau maximum qu'on peut atteindre.
Exactement. La nature, c'est 49. Quelqu'un qui veut atteindre le Olam Abba, le monde au-dessus, il monte au chiffre 50. Et c'est pour ça que la Bina, on dit Chamishim Sha'are Bina. Il y a 50 degrés dans le discernement. Vous êtes avec moi ou je parle seul? En qui c'est ça? En qui tu t'es déguisé? Avec le doigt aussi dans la bouche comme ça? Top. T'as pas compris. La nature, c'est 7. D'accord? Donc le maximum d'un 7, c'est combien? Ça veut dire que... quelle est la totalité du monde naturel? C'est combien? C'est 7. D'accord. Mais si je veux aller plus loin, c'est toujours 7 multiplié par lui-même. C'est-à-dire que je ne peux pas plus que ça. C'est comme si tu te dis, le maximum c'est 10. Donc le maximum du maximum c'est 10 fois 10. C'est 100. Donc 7 Quand on le met au chiffre 7, c'est un degré. Mais si je veux comprendre, et je vais vous montrer pourquoi je vais aller là-bas, un chiffre de l'au-delà, c'est tout le 7 multiplié par lui-même. Exactement, exactement. C'est-à-dire 7 c'est un cycle. Donc 7 fois 7 c'est un cycle complet. Quel par exemple, il y a combien d'années de Shemitah? Il y a combien de Shemitot? Il y a 7 fois 7 Shemitot. Il y a 7 fois 7 Shemitot, ça fait 49. Et la 50e année, comment ça s'appelle? Le jubilé, le Yovel. D'accord? Donc Yovel en réalité c'est quoi? C'est la libération totale. Donc quand tu es dans le 7 x 7, tu es coincé dans le Atum, dans l'Atum A du monde. En hébreu, Metum Tam, bloqué, bouché.
C'était quand le dernier Yovel?
Okay. Aujourd'hui, c'est difficile de compter parce qu'on ne sait plus à partir de quand. Mais l'année prochaine, c'est déjà une Shemitah. Donc quand tu fais 7 x 7 Shemitot, tu es le Yovel. Qu'est-ce qui se passe le jour du Yovel? On libère qui? Tous les esclaves sont libérés. Ça veut dire qui c'est les esclaves? C'est nous, on est libérés le jour du jubilé, donc on jubile. C'est de là que vient l'expression jubilé. Okay? Ça veut dire que le 50e, maintenant, ce chiffre 50 est très très secret. Teva, Teva c'est la nature, d'accord? Multiplié par la nature. En hébreu, nous avons des lettres qu'on appelle otiot mitralfot, des lettres qui peuvent se changer par d'autres lettres. Ça veut dire que chaque fois que vous voyez le tête, vous pouvez mettre à la place un shin. C'est un secret, c'est une règle de grammaire. C'est-à-dire en hébreu. Ça veut dire que le teva devient sheva, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il devient aussi tseva, il y a aussi un tzadik, c'est-à-dire la couleur. Ça aussi, c'est un autre secret. Ça veut dire teva, sheva et tseva, c'est la même racine. Ok? Maintenant, une fois que j'ai vu ça, j'ai compris que toute la nature, elle ne peut pas aller plus que 49 degrés. Moshe, okay, est arrivé le jour de sa mort, de sa disparition. Où est-ce qu'on l'a enterré? Dans une montagne qui s'appelle Nevo, pas Arnevo. Nevo, Har c'est la montagne, et elle s'appelle Nevo. Les Chachamim nous disent Nun Bo. Qu'est-ce que ça veut dire Nun Bo? Il a 50 en lui. Nun, c'est en valeur numérique 50. Ça veut dire Moshe est arrivé au chiffre 50. Combien de fois apparaît Haman dans la Megillat Esther? 50 fois. À quelle hauteur on va le pendre? 50 amot. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit le pendre là-bas? Dans un arbre que lui-même a prévu. Pourquoi il a prévu cet arbre pour qui? Pour Mordechai. Il voulait pendre Mordechai au chiffre 50. Pour ne pas que le Olam Abba descende dans le Olam Hazeh. C'est-à-dire il est dans un autre monde, dans un autre univers, dans une autre porte de l'espace. Ne descend pas dans notre monde, reste là-bas. Eh bien le même arbre qu'il a prévu lui-même, c'est lui-même qui va être pendu. Ça veut dire qu'Amalek, il est maintenant au-dessus du ciel et pas en dessous du ciel. Parce que le ciel, c'est le chiffre 49. Combien de cieux il y a? 7 cieux. Vous comprenez maintenant les 7 cieux? C'est toujours le chiffre 49. C'est en fait la dernière couche après avoir traversé un autre degré. Après, tu traverses un autre degré. Donc, tout notre monde, il est basé sur le chiffre 7. C'est pour ça qu'il y a 7 jours dans la création. Mais le Olam Abba, c'est le chiffre 8 ou le chiffre 50. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Que veut dire le mot Noun en hébreu, en araméen? C'est pas seulement une lettre. C'est aussi la traduction de quelque chose. Un poisson. Noun, ça veut dire poisson en araméen. Donc quand vous entendez le mot Nounim, c'est pas des lettres Noun, c'est des poissons. Et les Chachamim s'appellent Nounei Hayam, les poissons dans la mer, parce qu'ils nagent dans la Torah. Dans les profondeurs de la Torah, il y a des poissons. Eh bien, les gros poissons, ce sont les kabbalistes. Parce qu'ils nagent dans les profondeurs. Et on les appelle les Noun, les 50. Parce qu'ils touchent sans arrêt le chiffre 50. Ils sont toujours dans le chiffre 50. Alors que si tu es dans ce monde-là, tu es toujours dans le 49. Donc il faut être sans arrêt, pour vivre comme un réel Ben Israël, Bat Israël, être et dans ce monde-là, et dans le monde qui est au-dessus du 49. Et donc tu fais le lien entre les deux mondes, c'est la fameuse échelle de Yaakov, Mutsav Arza, Verosho Magia Ashamaim. C'est-à-dire l'échelle, elle est par terre, les pieds sur terre, mais la tête qui dépasse complètement en haut. Et tu fais toute la journée, Malaché Elohim Olim Veyordim Bo. Ça veut dire que tu fais le lien sans arrêt entre le haut et le bas.
C'est ça qu'on est comparé à
l'échelle. Nous, c'est nous l'échelle. Nachon. Exactement. C'est la première étape. Après, il y a plus haut. Mais le dépassement de soi, c'est déjà le chiffre 50. Si tu es arrivé là-bas, les rêves que vous rêvez la nuit, ils viennent de quel chiffre? Du 50, du 8. D'accord? C'est un chiffre secret parce que justement, il n'est pas dans notre monde. Regardez, dans les voyelles, vous avez la lettre Vav, par exemple. Vous avez la lettre Vav. Donc, vous la reconnaissez ici. Comment s'appelle le point quand il est en dessous? Un chirik. Quand il est à côté, il s'appelle Kubutsu Shuruk. Okay? Quand il est au-dessus, il s'appelle Cholam, le rêve. Regardez où il est. C'est un point qui est sorti de l'être. Il est au-dessus de l'être, donc il s'appelle le Cholam, c'est-à-dire le rêveur. Maintenant, pour ne pas que ça s'échappe, qu'est-ce qu'ils nous font les Chachamim? Des tagim. À chaque fois qu'il y a une lettre, il y a un petit trait d'union. Et des fois, il y a trois points, donc il y a trois traits qui relient au-dessus de la lettre. Vous avez déjà vu ça? Et c'est à cause de ça. C'est-à-dire que c'est un fil qui nous relie au Olam Haba. Vous comprenez ce qui se passe là? Ok. La lettre Vav, par exemple, ou autre lettre, quand elle a un point au-dessus d'elle, ce point, on l'appelle le Cholam. Nekudat HaCholam, d'accord? Ça veut dire que le Cholam, en hébreu simple, veut dire Chalom, Cholem. C'est-à-dire, ton rêve vient de ce point. Regarde le point, il est au-dessus du corps. Il est haut. D'accord? Ça veut dire qu'il est au-dessus. Donc le rêve, c'est au-dessus de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme lui-même. Ce sont des messages que tu reçois du chiffre 50 dans ton monde de 49.
Okay? Fois,
toujours. Non. C'est ta conscience, elle va juste habiller certains éléments du rêve. Mais toi, tu reçois un message, il faut juste faire le tri entre ce qui est venu d'en bas et ce qui est venu d'ailleurs.
Mais je n'ai pas compris
le vague. Non, il n'y a pas de... Pour l'instant, je t'ai donné un exemple. Il y a une lettre, j'aurais pu faire le Aleph à la place.
Okay.
D'accord?
Ça, c'est ce qui
nous permet de donner une direction à la lettre.
Mais elles sont inscrites dans ton livre?
Pas dans le Sefer Torah. Elles ne sont pas inscrites. Mais si tu dis par exemple O, O, Cho, Cholem, Cho, je sais qu'il y a un point au-dessus. Donc à partir du moment où je sais qu'il y a un point au-dessus, pourquoi ce point n'est pas dans la lettre? Parce qu'il est au-delà de la lettre. Il est au-dessus de la lettre. Il n'est pas coincé. Donc il est en réalité dans un monde de liberté. Mais pour qu'il soit lié à moi, les Chachamim nous ont aussi dit de mettre des tagim, c'est-à-dire des fils conducteurs pour relier à ce point-là. Avoir un petit peu de conscience. C'est ce que Rabbi Akiva faisait. Aya kosher ktarim la otiyot. Rabbi Akiva attachait, en réalité, il brodait des fils avec ses mondes supérieurs. C'est ça qu'il faisait, en réalité. Pour nous faire comprendre que le monde dans lequel nous sommes est géré et dirigé par un monde qui est au-dessus. Pour ne pas qu'on aille se perdre dans ce monde-là. Parce que si on se perd dans ce monde-là, encore une fois, tête même, Touma. C'est ça la Touma. Quelle est la racine du mot Touma? Tam. Mais pas Tam avec un taf entier. Tam veut dire boucher. La Touma, c'est ce qui nous bouche, on n'arrive pas à aller au-dessus. C'est ça? Quel? Okay. Le chiffre 8, c'est par rapport à un 7. Donc on est encore dans les unités. Si je veux passer aux dizaines,
ça veut dire quoi les unités?
Les unités, c'est un degré qui est au niveau du détail déjà. Les dizaines, c'est un petit peu plus large. Les centaines, c'est encore plus large. Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux parler de quelque chose, j'ai la possibilité de parler de cette chose-là ou dans mon monde personnel de l'unité, ou dans un monde un petit peu plus large du Minyan, les dizaines, ou dans un monde un petit peu plus large de la nation d'Israël tout entière. C'est ça ? Alors, il y a la même chose. Ça veut dire que si tu dois comprendre quel est le 8 dans les centaines, c'est combien maintenant ? C'était 8 dans les unités, c'était 50 dans les dizaines. Qu'est-ce que ça va devenir dans les centaines ?
La nature dans les centaines, c'est quoi ? Pour savoir.
Justement, c'est ce que je vous demande. Si tu sais ce que c'est la nature dans les centaines, tu vas savoir ce qui est le hors nature dans les centaines. Alors cherchez. C'est exactement ça qu'il faut se poser. Et dans les milliers, après. Dans les mille. Il n'y a pas de chiffre plus grand que 1000 dans la Torah. Il n'y a pas. Dans la Torah, vous ne trouverez jamais un chiffre plus que 1000. Alors quand on veut dire beaucoup plus, qu'est-ce qu'on dit ? Harbe, Revava. Mais on dit pas 10 000. Ken ? On va dire 10 000 parce que c'est des millièmes multipliés par. Mais il n'y a pas un million, ça n'existe pas. Donc, Elef Alfe Alafim, quand tu veux dire beaucoup, tu dis des milliers de milliers de milliers. Verov Rivei Revavot. De beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que le chiffre maximal dans la Torah, c'est 1000. Le chiffre minimal dans la Torah, c'est 1. Mais en réalité, il faut comprendre en fait tout ce degré.
Il
n'y
a pas au-dessus de 1000.
Il n'y a pas au-dessus de 1000. C'est toujours des multiples de 1000. Elef, comme Aleph.
Il n'y a pas une lettre comme
si, Aleph. Aleph, ça veut dire que tu reviens au Aleph, mais il n'y a pas une.
Oh, okay.
Dans les. Regardez, quand on arrive de l'alphabet, vous avez de Aleph jusqu'à Tav. Le Tav vaut 400. Le Aleph vaut 1. Okay, on est passé de degré en degré. Après Tav, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelle lettre ?
On fait des combinaisons ?
Non. Il y a toutes les lettres doubles de l'alphabet qu'on n'a pas comptées. Alors les lettres doubles, c'est Kaf, Mem, Nun, Pe, Tzadi. Donc le Kaf, mais pas le Kaf plat, le grand Kaf, le Mem Sofit, le Nun qui est Sofi, le Pe qui est Sofi, et le Tzadi qui est Sofi. Eh bien, celui-ci vaut 500, parce qu'on a terminé à 400. Celui-ci vaut 600, celui-ci vaut 700, celui-ci vaut 800, celui-ci vaut 900. Il n'y a pas de chiffre pour le 1000, c'est ce que vous avez posé comme question. Donc le 1000 revient à Aleph, c'est-à-dire on revient au 1. Aleph en hébreu veut dire 1000.
C'est ça ?
Les centaines dans la nature ? C'est des multiples. Ça peut dépasser 1000, mais c'est des multiples de 100 et des multiples de 1000. C'est tout, on ne va pas dire un million, il n'y a pas ce chiffre. Alors revenons à notre idée première. Notre idée première, c'est un cours qui est un petit peu plus profond, mais c'est pour Pourim, pour que vous compreniez le sens secret un petit peu plus de Pourim. Pourim, ce n'est pas dans ce monde. Pourim, c'est Olam Abba. Pourim, c'est le chiffre 50, c'est au-delà de ce monde. C'est pour ça qu'on ne connaît pas Pourim. On doit boire pour arriver à ce monde-là. Ad delo yada. Qu'est-ce que ça veut dire ad delo yada? Tu dois boire jusqu'à que ce que tu comprennes que tu ne comprends plus. Parce que si tu restes encore dans le monde de la compréhension, tu n'es pas encore dans Pourim. Vous avez compris? Ça veut dire que Pourim n'est pas le monde où on comprend. Et à Femot, si tu n'es pas monté à Pourim dans ce monde-là, du chiffre 50, tu es resté encore dans ce monde concret. Or, Pourim, c'est Ad Deloyada. Quand est-ce que Moshe est arrivé au plus haut sommet de sa carrière, on va dire ? Quand il ne savait plus. Quand il est redescendu de la montagne, il y a marqué où Moshe Lo Yada, qui Karan Or Panav. Car la peau de son visage est devenue or. Et donc, Moshe, c'est le premier dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est mis sur le visage ?
Un masque.
Donc, c'est le premier déguisé de l'histoire. Maintenant, vous comprenez le lien avec Pourim ? Ça veut dire quand Moshe est descendu du monde d'en haut, il était tellement dans le visage de Adam Harishon or et plus or que les gens avaient peur de le regarder. Velo yachnu liroto ki yar'u mipanav. C'est-à-dire il avait une splendeur sur le visage. Donc qu'est-ce qu'il fallait mettre? Un masque. Yasem hamasve al panav. Donc il s'est mis un masque. Mais c'est exactement la même chose à Pourim. Pourquoi on se met des masques? Parce qu'en réalité, on est censé être dans la même lumière. La Yehudi Maïta, Ora Vesimcha Vesason Veikav. Mais c'est cette lumière-là, qui est de l'ordre du chiffre 50, qui dépasse complètement, qu'on est censé combattre. Puisqu'on parle de ce chiffre 50, on doit sortir en réalité de nos étouffements. Au moins 50 degrés, vous comprenez maintenant? Le masque, c'est tout simplement parce que la lumière est tellement forte que ce monde n'est pas encore capable de regarder cette lumière. Donc je mets un masque pour cacher cette lumière. D'accord? Parce que sinon le monde ne peut pas supporter ma splendeur, ma lumière. C'est-à-dire comme un écran. Maintenant, vous comprenez que pour rejoindre n'importe quel niveau du Olam Haba, du monde d'en haut, quel est le chiffre? 50. Vous comprenez maintenant, c'est facile. Maintenant, je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre maintenant. Combien de jours après la sortie d'Égypte, donc de la prison, on reçoit la Torah? 50, le 50e jour. Alors, quand est-ce que je peux recevoir la Torah, en fait, qui est l'au-delà? Seulement quand j'ai dépassé 49. Donc, Shavuot, c'est quel jour? Le 50e jour. Donc, Shavuot, c'est le chiffre 8, c'est la même chose. Donc, il y a 7 fois 7 semaines entre Pessah et Shavuot, et le chiffre 50, on ne le compte plus. C'est difficile, c'est très 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 logique tout ce que je suis en train de vous dire, mais il faut s'habituer. Mais c'est très, ça va très loin. Ça veut dire combien je dois m'éloigner en fait de mon étouffement qui s'appelle l'Égypte? Au moins 50 degrés. Je dois me sauver, avancer 50 étapes quand je sors d'une prison. Combien de fois dans la Torah, dans toute la Torah, il est écrit la sortie d'Égypte? 50 fois. Vous comprenez comment ça marche? C'est extraordinaire. En Égypte, on est arrivé au 49e degré d'impureté. C'est-à-dire on ne peut pas plus. Ça fait 49. Vous comprenez maintenant pourquoi? Touma. On ne peut pas aller plus loin.
On ne peut pas monter tout seul à 50.
Ma?
Quand on atteint les 49e degré d'impureté, par exemple, on est obligé de... Hachem est obligé d'intervenir.
Non, il y a le 50e degré, malheureusement. Ça s'appelle la dépression.
Oui.
Chas v'shalom. Et il ne faut pas tomber là-dedans. C'est pour ça que dès que vous vous sentez un petit peu triste ou un petit peu, vous sentez chas v'shalom qu'il y a quelque chose, allez vite vous faire soigner. Parlez vite à quelqu'un. Parce que tomber dans le chiffre 50, chas v'shalom, c'est très difficile d'en sortir. C'est-à-dire, je ne veux pas dire impossible, mais c'est très difficile d'en sortir et il faut faire très attention à ça. Ça veut dire que dans la chassidoute, justement, on dit que le chiffre le pire de tout, c'est le 50e degré, c'est la atzvout, c'est la peine, la tristesse. Quand quelqu'un il est rentré là-dedans, chas v'shalom, il est dans un autre monde. Donc faire très attention de combattre ce degré-là dès que vous sentez quelque chose de mélancolie qui se réveille en vous. Ne pas rester là-bas. Tout de suite sortir. Ne t'installe pas là-dedans. Ne commence pas à écouter des musiques tristes parce que tu as envie. Tu rentres là-dedans et après tu rentres dans un tourbillon chas v'shalom de tristesse. Et tu peux plus t'en sortir, chas v'shalom. En asir matir atzmo mi bet asurim. Et s'il y a quelqu'un qui vient pas te tirer de là-bas, tu risques de tomber dans un tourbillon, chas v'shalom, qui est très dangereux. C'est-à-dire, donc, faites très très attention à ça. Mais oui, mais il y a dans les deux côtés. Il y a 50 dans le bien, 50 dans le mal. Ça veut dire que le zéro. Tu sais ce que c'est un nombre positif, un nombre négatif. Tiens, le 0, tu as plus 50 et tu as moins 50. Tout ce qui existe dans le bien existe dans le mal. C'est tout. Amalek se trouve ici.
Et Téma, la nature?
La nature, c'est 49. Mais ça peut être 49, ça dépend ce que tu fais. 49 dans le mal, 49 dans le bien. Comment tu vis ta nature? La même chose. Yetzeratov, Yetzerara. C'est tout. C'est toi qui fais. C'est la même puissance. Mashiach, ou Nahash.
Le
zéro, c'est en réalité une, le moment de reset. C'est un reset. C'est comme si tu recommençais ton travail. Par exemple, à la sortie d'Égypte, on était à zéro. Parce qu'on est sorti de 49 degrés, il fallait monter encore 49 degrés pour recevoir la Torah le 50e jour. 50e jour.
Quoi ?
Non,
c'est pareil en fait. C'est à quel autre moment on se retrouve à zéro dans la vie ?
À quel moment on se retrouve à zéro ? Au moment, généralement, dans notre vie, dans notre circuit, au moment de notre naissance. On te redonne la possibilité de recommencer tout. Même si tu commences déjà quelque part, mais pour toi c'est ton zéro. Et le jour de ton anniversaire, le jour de ton mariage et le jour de ton aliyah en Israël. Où il y a marqué que mitpakekim kol avonotam. Toutes les fautes sont effacées. Tout ce que tu as fait avant, c'est effacé. Pourquoi ? Parce que le jour où tu dors la première nuit en Eretz Israël, on te change la neshama. C'est une neshama de Eretz Israël, c'est plus une neshama de Chutz La'aretz. C'est vrai ? Alors si vous voulez les références, c'est Nahar Kafbet. Nahar Yudbet dans Chesed le Avraham, un livre qui s'appelle Chesed le Avraham du Rabbi David Avraham Azoulay. Il dit que Balaïla Harishon, je vous cite textuellement ce qui a marqué là-bas, mot par mot, Balaïla Harishon Shiyashen Be'eretz Israël, Olot Shtei Haneshamot, c'est-à-dire il a reçu, quand il est arrivé à l'aéroport, il a reçu une Neshama, la première nuit, deux Neshamot sortent, celle qu'il avait ailleurs et celle qu'il a reçue tout de suite, Ve'baboker Yoredet Rak Neshama Hadasha. Et donc l'autre, elle reste, c'est fini. Elle est dans un autre, on l'a mise dans une armoire, et tu reviens avec une nouvelle neshama, tu es un homme nouveau, une femme nouvelle. Maintenant, c'est pour ça que le mariage, en réalité, comment ça s'appelle en hébreu ? Non ? Nisuin. Qu'est-ce que ça veut dire Nisuin ? Non, c'est avec un sin, pas avec un samer. Nisuin, c'est en réalité élévation, les nassé. Parashat Nasso, c'est comme Nes, mais c'est avec un sin, pas avec un samer, d'accord? Mais en réalité, Nisou, Ken, In, qu'est-ce que c'est Nisou et tu vas élever jusqu'où?
50.
Jusqu'au Noun, jusqu'au 50. Ça veut dire le mari et la mariée, le marié et la mariée, sous la choupa, ils sont à quel chiffre?
50.
Ils sont à 50. C'est-à-dire ils arrivent aux 50. C'est pour ça qu'ils font des brachot à tout le monde. Parce qu'ils sont dans le Olam Abba. Ils sont dans l'unité.
Vu qu'ils sont plus d'une seule personne, pourquoi ils sont pas
unis ? J'ai pas compris.
C'est pareil, 8 et 50.
J'ai dit 8 et 50, c'est pareil.
C'est pareil.
Ok ? Tout à l'heure, j'ai expliqué. 8 et 50, c'est pareil. Et la femme fait 7 tours autour du mari avant qu'il lui fasse monter au chiffre 8. C'est-à-dire ?
Joshua,
Ken.
C'est écrit fils de Noun.
C'est pour ça que les Chachamim, ça c'est de la Kabbalah ce que tu dis, c'est marqué dans le Zohar. Ken, que Joshua s'appelle Ben, le fils de Noun. Ça veut dire que c'est le fils du chiffre 50. Ken. C'est-à-dire, vous avez des questions? Et c'est pour ça que c'est lui qui est capable de sortir en guerre contre Amalek. Puisque Amalek, c'est aussi cette force-là dans le sens négatif. Donc il faut sortir en face de Amalek avec cette puissance-là. Donc qui est capable de combattre Amalek ? Seulement Yehoshua bin Nun. C'est pas Moshe lui-même qui fait le combat, c'est Yehoshua Dafka. Parce qu'il est le fils de Nun. Et il veut lui donner la force de faire ce. Mais est-ce que Moshe lui fait le combat avec Amalek aussi ? Oui, puisqu'il monte au-dessus de la montagne. Et pendant que Yehoshua combat en bas, lui, Moshe, il combat en haut. Ça veut dire qu'il faut des militaires et des talmidei chachamim.
Wow.
C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas, on n'est pas venu à bout des problèmes que nous avons. Alors, ça me fait rire comment Akadosh Baruch Hu est en train de jouer avec nous. Parce que tu as des gens qui pensent, soi-disant, parce que c'est un mensonge, qu'on veut leur enlever l'étude de la Torah, alors que c'est faux. Et au même moment, des petits soldats d'Israël ont attrapé un bateau entier plein d'armement qui sauve la vie à tous les gens qui habitent ici, y compris ceux qui étudient. Mais ça, personne ne fait attention.
Et pendant le moment,
faut faire attention à ça. Il faut.
Chacun a sa version de la chose, de ce que vous dites.
Non, non, non. Parce que personne n'a jamais empêché quelqu'un d'étudier la Torah. C'est faux. Il y a des Talmidé Chachamim qui étudient la Torah et qui font leur service au niveau de la nation. Il n'y a aucun sens à ça. Aucun sens. David HaMelech, je vous rappelle, c'était un très grand kabbaliste et pourtant c'était un chef militaire. Rabbi Akiva, je vous rappelle, c'était le père de toute la Torah de la Kabbalah et il portait les armes à Bar Kokhba qui était le Ramatkal de l'époque. Tous les hommes d'Israël ont toujours combattu. C'est ça? Ok. Et donc tout ceci pour vous faire comprendre qu'en réalité, Haman, il commence sa guerre bien avant l'histoire de Purim. Haman, il va dans le secret du mal. Il va chercher où le mal est né.
Excusez-moi, je voudrais quelque chose
à ce que
vous m'avez dit. À cette époque, les soldats, eux aussi, étudiaient la Torah.
Pas tous. Non, c'est pas tous. C'est faux ce que vous venez de dire. C'est faux. Il y a des époques où ils combattaient et ils n'étaient pas du tout des Talmidei Chachamim. Il y avait des rois d'Israël. Dans les exemples que j'ai donnés, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas ou l'un ou l'autre, il faut les deux. Mais en même temps, je ne dis pas les deux. Dans la même personne. Dans la même personne, il faut les deux.
Alors pourquoi dans ce cas-là?
Il faut obliger. C'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait obliger les soldats à étudier et les étudiants à faire l'armée.
Mais si on a une nation, on est un corps.
Parce qu'on est obligé de tout faire, tout le monde. Il faut savoir en réalité. Au maximum, tu ne veux pas faire l'armée, tu peux faire un service au niveau de la nation, c'est sûr. Autre chose. Et. Nahon, c'est très grave aussi. Nahon, c'est se soustraire de l'histoire de la nation tout entière. Donc il faut essayer d'être tout. Ça veut dire qu'un Talmid Raham doit aussi travailler. C'est marqué dans ma Ketouba. Je dois nourrir mon épouse. Moi aussi, j'ai envie d'étudier toute la journée. Mais dans la Ketouba qui est accrochée à ma chambre. Ken, j'y ai marqué, je dois nourrir ma femme. Alors je dois travailler. C'est tout. Nachon. Et c'est que Yehudin, Gavrin, Dekushta. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Ketouba? Les vrais hommes juifs qui travaillent pour nourrir leur femme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Et tous nos Tanaïm, tous nos Amoraïm avaient un métier en même temps qu'ils étaient des Gdolim en Torah. Tous. Okay? Donc, c'est facile de venir et de partir. Tout le monde veut. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est Olam Abba dans le Olam Azeh. Ça veut dire faire le lien entre les deux mondes. Sinon, Akadosh Baruch Hu ne nous aurait pas créé en tant que corps. Il nous aurait laissé au niveau des Neshamot.
Et c'est le défi, parce que sinon,
Bevadaï. Et si les gens me disent non mais moi je vais être dans les spiritualités, alors je lui réponds, alors ne mange plus.
Voilà.
Pareil. Quand tu vas faire une omelette, tu as besoin d'une marmite, d'une casserole et d'un œuf et d'un truc, c'est physique, matériel. Alors fais-le aussi spirituellement. Pense œuf, betsa et mange. C'est justement. Parce qu'ils n'avaient pas la même nature, c'était encore un autre degré. Aujourd'hui, puisque le monde est descendu, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Ça veut dire que même quand je combats pour ma nation, je suis en train de faire une mitzvah de la Torah. Puisqu'il y a une mitzvah de la Torah de défendre sa terre et son peuple.
Non, mais la position, elle est bonne quand on prend les deux côtés. C'est-à-dire que.
Je suis d'accord.
Moi, jusqu'à maintenant, je pensais que, comme elle a dit, une nation, on se complétait.
Quelle? Maintenant, la nation, si elle veut, tu as raison, maintenant la nation, si elle veut, et elle peut le faire, elle prend des grands, elle leur dit, toi, je te paye. Vas-y. Et tu dis, parce que toi, tu es un iloui, tu es spécial. Il y a des exceptions. Okay. C'est là. Mais c'est pas le but de la vie. C'est pas ça le but de la vie.
Mais quand on dit que tout le monde doit faire l'armée, moi, je suis d'accord quand on dit à côté, tout le monde doit...
C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Moi, je suis pour faire une loi d'obliger, en fait, tout le monde à étudier en même temps et à faire ce service. Mais vedette. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit. C'est pas ou l'un ou l'autre, Hasbe Shalom. Nachon. Ça veut dire je dois être un Talmid Chacham. Si je peux, je deviens un rave, mais j'ai en même temps une arme sur moi qui est capable de me défendre.
Et pas tout le monde a les capacités d'étudier.
Et pas tout le monde a les capacités non plus d'être à l'armée. Donc j'ai dit qu'il y a des Yotzi Minaklal, il y a des exceptions, c'est sûr. Il faut faire attention, on n'est pas dans Sodome. Tout le monde doit avoir la même taille, tout le monde doit avoir le même truc, la même couleur, la même façon de s'habiller. Non, je ne dis pas ça, Chas v'Shalom. Mais le pire des choses, c'est d'arriver à la haine de l'autre, Chas v'Shalom. Et ça, c'est dangereux. Non, pas capable d'arriver à des sommets. Tout le monde est capable d'étudier, tout le monde est capable de faire quelque chose. Donc, tu n'es pas capable d'aller te combattre. Assieds-toi dans un bureau, tu vas remplir des choses, c'est aussi important peut-être. En baya. Fais un service de la nation, va travailler dans un hôpital et ainsi de suite. Mais il faut équilibrer les choses. Dans les deux sens, il faut équilibrer les choses. Et n'oubliez pas que c'est une mitzvah mideoraita, c'est une mitzvah de la Torah. Okay. Okay. Et il ne faut pas faire des amalgames, chas v'shalom. Tout cela sont des pourris, tout cela sont bien, tout cela non. Chas v'shalom, il faut faire très attention à ça. De ne pas tomber dans ces extrêmes-là, parce que ça amène de la haine pour l'autre. Et ça, c'est interdit. C'est pire que tout le reste. Donc, il faut faire très attention d'être équilibré. À mon petit niveau, j'essaye de faire passer ce message, parce que dans les cours que je donne, celles qui étaient là Shabbat, savent, vous n'étiez pas au cours le matin et l'après-midi en hébreu, où il y a des sarim de la Knesset qui viennent. Donc, je fais passer ce message. Okay? Donc, un jour, ça va arriver. Bezrat Hashem. Top. Alors, vous comprenez que la guerre de Haman est une guerre intérieure, très profonde. Ve'alken ratza l'itgaber bechodesh adar shemet bo Moshe, ki midat Moshe ze prinat istalkut adat, prinat sheina. Donc, qu'est-ce que c'est istalkut adat? C'est un sommeil. Quand tu vas dormir, tu es foutu. C'est comme si tu étais un petit peu mort. Quel Napoléon disait, je suis Napoléon que quand je suis réveillé. Quand je dors, je suis comme tout le monde. C'est clair? Et donc la Sheina, qu'est-ce que dit Aman quand il commence à parler dans la Megillah? Quel est son premier nom, le premier mot qu'il dit? Ou à Hachverosh? Yeshno. Premier mot, Yeshno Amechad. En hébreu simple, ça veut dire il y a un peuple. Mais les sages nous disent Altikre Yeshno Ela Yashnu. Ils se sont endormis. Autrement dit, quand est-ce que le danger arrive? Quand tu t'endors. Qu'est-ce que ça veut dire s'endormir? Ben perdre son da'at, perdre son moshé, perdre sa connexion, perdre son éveil. Dès que tu as perdu ton éveil, chas v'shalom, tu es en danger de mort. Et qu'est-ce qu'il continue de dire? Yeshno, am echad, dans la racine il est un, ce peuple, aval, mefouzar ou meforat ben ha'amim, il est éparpillé parmi les nations. Autrement dit, ils ne sont pas remontés en Israël pour reconstruire le Beth Amigdash. Alors qu'ils devaient le faire, ils avaient un ordre de remonter en Eretz Israël après 70 ans d'exil. Une prophétie claire. Pas qui nous laisse dans l'espace comme aujourd'hui, on ne sait pas trop. Là-bas, il y avait une date. Et qui est monté en Israël à cette époque-là? Le Charash et le Masguer nous disent la Gemara, les Chachamim, que les gens les plus paumés, les pauvres, qui n'avaient rien. Ils sont partis, en plus de ça, ils étaient à moitié assimilés. C'était la panique totale. Mais les grands et tous les gens et des gens de la Torah, nous dit la Gemara, ne sont pas montés en Eretz Israël à cette époque. Et ça, c'est le début de l'apparition de Amalek. Parce qu'à la fin d'un exil, ou tu montes en Israël, ou bien, chas v'shalom, tu es à la portée de l'attaque de Amalek. Donc à chaque fois qu'on va sortir pour monter en Eretz Israël, il y a Amalek qui va attaquer dans toute l'histoire de notre nation. Ça s'est passé au moment où Am Israël est sorti d'Égypte pour monter en Eretz Israël. C'est là où Amalek a attaqué. Et ça s'est passé au moment de Koresh. Et ça se passe dans notre génération au moment de 1939 où on devait déjà remonter en Eretz Israël parce que l'exil est terminé et on est resté là-bas. Et c'est l'une des raisons aussi, chas v'shalom, pour la Shoah. Ken, le Rav Kook l'écrit dans plusieurs endroits. Il a envoyé des lettres à tous les rabbanim de l'époque de leur dire que le moment est arrivé de monter en Israël. Ils n'ont pas écouté. C'est-à-dire ? Et malheureusement, ça se répète toujours. À chaque fois qu'il y a un potentiel de retour en Israël, il y a aussi malheureusement un réveil chaotique d'un Amalek qui se trouve dans la même époque. C'est-à-dire ? De nos jours, on est rentré, mais on n'est pas tous rentrés encore. Il y a encore Amalek qui prend des... J'ai vu une valeur numérique. Ce n'est qu'une valeur numérique, mais quand même. Okay. Dieu donnait Balaam, comme il s'appelle exactement, valeur numérique Amalek.
Wow, wow, oui,
240. Boule. Okay. Je l'ai fait avant-hier. Dieu donnait Balaam. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est là. Je dis que c'est une valeur numérique, mais quand même, ça tombe à Malek, 240, pire. On ne peut pas mieux faire. Sans rajouter un ou enlever un, même pas avec le collègue, rien. Boule, 240. Je l'ai fait quatre fois pour vérifier si j'avais raison ou pas. Ça veut dire qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui utilise des bâtons à chaque génération. C'est écrit d'ailleurs dans la Gemara. Im lo osim tshuva, s'ils ne font pas tshuva, quel? Mais vi alem. Il leur amène un roi dont les xérotes sont pires que celles de Haman pour les redresser, pour les ramener au bien. C'est tout. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous aime et à chaque génération il nous amène quelqu'un pour nous remettre en place. Donc moralité, ce sont que des révélateurs pour nous réveiller. C'est pas pour nous faire du mal. Ken. Mais le bruit qu'il représente, c'est quelque chose. C'est pas, il ne faut pas voir la personne en question. Il faut voir le tollé qu'il y a autour, la force qu'il y a autour. Ça veut dire qu'il y a en pour et en contre, mais encore il s'agit-il de savoir si on comprend le message. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le contrer? Le contrer enfant. C'est pas ça comprendre le message. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que je peux me battre avec quelqu'un, mais je ne comprends pas le sens de ma guerre. Pourquoi il est là? Pourquoi il est venu? Pour me dire quoi en réalité sous la ligne, entre les lignes.
Fais ton alia.
Ken, mais si tu n'entends pas.
C'est
sourd. Nachon, Baruch Hashem. Donc tout le monde reconnaît que grâce à cet état, Baruch Hashem, malgré ses difficultés à avancer, mais il avance, Baruch Hashem, il ne faut pas tout casser comme si ça valait rien, comme si tout était mauvais ici. Chas v'shalom, faire très attention. C'est une malroute qui est en construction. Et elle est comme une petite fille. Il faut lui donner le temps de grandir. C'est tout. C'est marqué comme ça dans Shir HaShirim. Achot la nuktana. Et elle grandit. Petit à petit, elle grandit. Quand un bébé est né et qu'il a des problèmes et qu'il a des choses qui sortent de son corps, on ne jette pas le bébé avec la couche. Okay. Sinon, on est un petit peu fatigué de la tête. Et ils sont mauvais. Tout le bébé sont mauvais. Non. C'est extérieur à lui. Alors fais attention. Ne jette pas à chaque fois tout le bébé avec toutes les couches et à la poubelle. À chaque fois qu'il se passe quelque chose. Medinat Israël, tu commences à parler mal. Chas v'shalom, faire très attention. Okay? Ceux qui parlent du mal de ça, en réalité, parlent du mal d'une action divine. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a permis d'être là. Donc c'est comme s'il disait à Dieu, tu t'es trompé. Moi je sais mieux que toi. Faire très attention à ça. Okay? Et les gens doivent donner des comptes sur ça. Parce qu'il y a marqué que 5 questions sont posées à l'homme après 120 ans. L'une d'entre elles, c'est: est-ce que tu as vu comment, dans les événements de ce monde, j'ai fait avancer mon processus divin? Si tu dis non, moi j'ai toujours été contre tout ce qui se passait ici. Il y a un problème. Donc il faut faire très attention, il faut être sensible dans ses paroles et très mesuré. Et savoir réellement dire les choses, pas parce que je suis énervé ou je suis contre ou on m'a monté la tête, en sachant vraiment ce que la Torah veut. Elle veut un équilibre. L'homme d'Israël, la nation d'Israël doit être équilibrée. Elle doit avoir Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Pourquoi il y a deux Mashiach? On n'a pas besoin de deux. Si Mashiach ben Yosef est une structure politique et Mashiach ben David est une structure divine, c'est tout. Et les deux ensemble doivent... Il y a marqué « Velakarta et etz Yehuda et etz Yosef vayu leachadim beyadecha ». Tu prendras les deux arbres, ils doivent être une seule et même unité dans ta main.
Pourquoi on pense à que ici et pas à
Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais commencer à me poser des questions parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, on me dit pourquoi on n'entend ça rien qu'ici. Donc je me pose la question si c'est moi, le ici. Ah, tu entends ? D'accord. Okay. Bah, oh, Hachem. Mais parce que c'est une Torah qui équilibre le ciel et la terre.
Parce que si c'est tellement un truc connu et clair, pourquoi c'est pas si clair ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il faut rééduquer toute une génération à un équilibre entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière. Akadosh Baruch Hu n'est pas plus dans l'esprit que dans la matière. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé plus la Neshama que le corps. Il a créé les deux. Et ce monde, c'est un monde qui est rempli de divin. Même dans tout ce qu'on fait ici. Et il y a eu des rois d'Israël qui étaient beaucoup plus Réchaïm que les rois qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, on les appelait des rois d'Israël. Et ils sont marqués dans le Tanakh. Comme Jéroboam et tout le reste. Et pourtant, c'était des rois d'Israël. On n'a pas enlevé du Tanakh. On a dit, non, ceux-là, il ne faut pas les marquer. On n'a pas fait de la censure. Ça veut dire qu'il y a une évolution dans la malchoute. La malchoute, elle vient dans une évolution naturelle qui s'habille dans la nature, mais qui est au-delà de la nature. C'est l'au-delà de la nature qui descend s'habiller dans la nature. Ça, c'est Pourim. Pourim, c'est un jour, en réalité, qui est resté dans la nature. Il est tellement hors nature qu'il respecte toute la nature. Qu'est-ce qu'il est interdit de faire à Pourim ? Il y a des halakhot ? Interdit de faire quelque chose ? Rien du tout. Pourquoi ? Non. Il n'y a aucune interdiction. Quelqu'un qui est en deuil, il est en deuil. Il n'y a pas marqué qu'il soit très triste, ras veshalom. Tristesse, ce n'est pas du judaïsme. Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette fête, elle gêne même pas la nature. Alors que toutes les fêtes, elles sont contre un petit peu la nature. Parce que tu n'as pas le droit d'allumer le feu ici, tu n'as pas le droit de faire ça là-bas. Il n'y a pas une fête normale. Vous connaissez une fête normale dans l'année ? Pessah, tu manges des bouts de bois. Ken, à la place du pain normal. Hanouka, c'est autre chose. C'est la même chose que Pourim. Je vous ai dit que c'était les deux fêtes de la fin des temps. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à Pourim, qui est interdit à Pourim lui-même, en tant que Pourim ? Rien. Soukot, c'est magnifique, mais tu es en dehors de la maison, t'as jeté. Shavuot, c'est superbe, mais on t'a dit de ne pas dormir. Donc tu vas étudier toute la nuit. Qui ? Non, pas de la même... au niveau des Moadim. C'est juste les kabbalistes. Toubishvat est rené de ses cendres il y a seulement 500 ans. On ne fêtait pas Toubishvat. Pendant toute la... C'était un jour que la Mishnah mentionne, mais ce n'était pas fêté. Okay. Aujourd'hui, on a remis au goût du jour. Donc, il n'y a aucune fête. Rosh Hashanah, tu es angoissé. Et Yom Kippour, n'en parlons pas. Alors, quelle est la correction de tout ça, Pourim ? Okay. Pourim, en réalité, c'est une correction de tout ça. C'est-à-dire, tu manges, donc tu es dans la nature. Cette fête ne gêne pas le côté Kodesh, donc le Chol et le Kodesh se marient à merveille, c'est-à-dire t'es heureux, mais en même temps tu manges et tu bois, en simcha el abebasar veyain, donc tu bois du vin, tu manges, t'es heureux, machin, tu lis la... Et pourtant c'est un jour de Olam Haba comme je viens de vous le dire. Alors le Olam Haba et le Olam Hazeh se marient à Pourim. C'est ça le secret. C'est pour ça que le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah. Pourquoi il n'apparaît pas le nom d'Hachem dans la Megillah ? Parce qu'en réalité, il est caché dans les événements historiques. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas dans l'histoire ? Chas v'shalom, il est partout. C'est justement pour ça qu'il n'est pas marqué à un endroit plutôt qu'à un autre. Parce que s'il était à un endroit de la Megillah plutôt qu'à un autre endroit, ça voudrait dire qu'il est que là. Alors que quand il est nulle part, en réalité, il est partout. Donc Hachem est partout dans la Megillah. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a partout dans mon histoire moderne, qui est la suite de Pourim aujourd'hui. Nous sommes dans les deux fêtes de la fin des temps, Pourim et Hanouka. Donc les fêtes d'aujourd'hui sont des fêtes qui ne viennent pas gêner notre nature d'homme. Il n'y a pas d'interdiction. Moralité, il n'y a pas de fêtes religieuses, ça n'existe pas. Ce sont des fêtes de la nation tout entière. Shabbat, ce n'est pas un jour de Torah, de religion, c'est un jour national. Si on expliquait ça aux gens qui ne sont pas religieux, ils feraient Shabbat. Seulement, comme ils pensent que Shabbat c'est un jour religieux, ils ne veulent pas. Mais en réalité, c'est un jour national. C'est parce que nous sommes la nation d'Israël qu'on a reçu le Shabbat. La même chose pour Pessah. Pessah, ce n'est pas une fête religieuse. Ce sont des fêtes de la nation, donc ce sont des fêtes nationales. Moi, je répète les mots, hein, national, nation, c'est la même chose. Seulement, ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux deux, d'ailleurs. Les religieux, ils disent non, chas v'shalom. Et les chilonim, ils te disent non, chas v'shalom. Il n'y a que l'accent qui change. C'est tout. Mais en réalité, c'est ça. Et si j'expliquais aux gens, aux chilonim, entre guillemets, que Shabbat était un jour national, eh bien, ils feraient tous.
Ils n'ont pas les
interdits. Ok. Mais il faut comprendre comment dire les choses. Toda Rabba. Pourim sa mère.